France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
C'est notre ultime liberté, choisir notre fin de vie. Et ce soir, on a envie d'évoquer avec vous ce sujet intime et douloureux. L'Assemblée nationale doit se prononcer demain en deuxième lecture sur deux propositions de loi décisives sur la fin de vie. La première garantit un accès universel aux soins palliatifs. La seconde instaure une aide à mourir. 15 ans que le sujet est récurrent. Il y a eu une convention citoyenne en 2023 et les textes législatifs ont un parcours chaotique depuis 2 ans sur ce qui est considéré comme le grand texte sociétal du deuxième quinquennat Macron et que le président lui-même souhaite voir aboutir avant la fin de l'année. Un sujet consensuel, le dernier sondage IFOP commandé par l'Association pour le droit à mourir dans la dignité fin janvier montre que 87% des Français soutiennent la possibilité pour les personnes en fin de vie de choisir entre soins palliatifs et aide active à mourir. Mais quelle aide à mourir? De quoi parle-t-on? Qui doit être concerné? L'article 4 du texte prévoit des critères bien précis. Et ensuite, comment doit-on prendre la décision qui fait le geste final? Suicide assisté et euthanasie, certains soignants réclament une clause de conscience. Toutes ces questions concernent au fond l'accompagnement en fin de vie. On entend souvent cette phrase « on meurt mal en France ». Alors si vous avez accompagné quelqu'un, si vous avez une idée précise de ce que vous souhaitez, si vous êtes soignant, c'est le moment de refaire un point tous ensemble sur ce sujet au cœur de nos vies. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Robert.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous. Oui, mon frère est décédé fin 2023 d'un cancer de la prostate, donc il a passé une épouvantable dernière année après avoir traîné en clinique. Moi, je suis atteint du même mal. Je prendrai donc mes dispositions parce que je ne veux pas connaître son calvaire. Situation déjà évoquée d'ailleurs avec l'urologue. Si une telle loi de fin de vie existe demain, personne n'est obligé d'y recourir. Laissons la liberté à chacun. Or, oui, vous avez des personnes qui veulent l'interdire à tout le monde, tout le temps, et certains pour des raisons religieuses. Ce que je respecte, mais ça reviendrait presque à obliger tout le monde à croire en Dieu, ce qui n'est pas mon cas. Mm-hmm. Il y a des lois sur le divorce, le mariage pour tous, l'avortement. Personne n'est obligé d'y recourir. Mais ces lois sont là et bien encadrées pour ceux qui pourraient en avoir besoin. Moi, je vois ça comme ça. Pour en revenir à l'euthanasie, il me paraît pourtant évident que même des personnes qui sont contre aujourd'hui l'euthanasie, je peux comprendre, et c'est bien leur indiscutable droit, ils demanderont demain peut-être ou un jour à y recourir quand malheureusement ils seront devant d'indicibles souffrances. Mmh. Et leur décision, dans ce cas, sera tout à fait compréhensible. Quoi qu'il en soit, le respect du choix de chacun s'impose. Il n'y a pas plus intime pour moi, pour l'homme, que d'être face à ses souffrances et à sa propre mort. Pour ce qui est des hésitations des politiques, législateurs, sur ce sujet, je peux comprendre leur prudence pour d'abord encadrer les textes, pour freiner les éventuelles dérives et ménager aussi les susceptibles bien admises de ceux qui sont contre ces lois. Même bien encadré. En revanche, pour moi, si vous voulez, il est évident qu'une telle loi doit exister. Voilà.
Merci pour votre témoignage, Robert. Merci d'avoir eu le courage de parler aussi de votre maladie. Alors, pour en parler avec vous ce soir, dans ce studio, Sarah Doshi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente du Centre national pour les soins palliatifs et la fin de vie. Vous êtes par ailleurs psychiatre. Il y a aussi François Blau, bonsoir.
Bonsoir.
Médecin réanimateur et président du comité d'éthique de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, cofondateur du collectif Pour un accompagnement soignant solidaire. Et vous êtes aussi l'auteur de Faut-il légaliser l'aide médicale à mourir, on est au cœur du sujet. Et en studio aussi, notre spécialiste ici à France Inter, celle qui a suivi tous les débats parlementaires sur ces deux lois, ça dure depuis un moment. Bonsoir Alice Cachaner.
Bonsoir à tous.
Journaliste au service santé, sciences et environnement. D'abord, j'aimerais qu'on clarifie les choses et qu'on se dise tout de suite de quoi on parle. Quelle est la différence entre l'aide à mourir et l'euthanasie? Qui veut répondre? Alice, peut-être, puisque vous avez suivi les débats.
Oui, alors, l'aide à mourir, en fait, c'est un mot global, une expression qui a été préférée parce que
moins violente. L'euthanasie, ce qui définit l'euthanasie, en fait, c'est l'administration d'une substance létale par un tiers, et l'euthanasie est à distinguer du suicide assisté, où là, c'est le patient lui-même qui s'administre le produit létal, donc soit absorption, soit injection. Mais l'aide à mourir, c'est à la fois euthanasie et suicide assisté. C'est un mot global, en fait.
Robert disait « je prendrai mes dispositions ». Qu'est-ce que ça vous inspire, François Blot ?
Ça m'inspire que... Déjà, Robert dit... déjà, bonne chance à lui. Enfin, j'espère que les choses vont bien se passer. Mais il est évident que, je pense qu'il n'est rien n'est évident dans ce débat-là. Et pourtant, je partage son avis sur la nécessité de légiférer. Mais le fait que ce soit évident n'est pas si clair que ça. Ensuite, vous avez parlé du sondage sur le choix entre suicide assisté et soins palliatifs.
Je pense qu'on est au cœur du sujet.
C'est pas où. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on veut essayer de porter, tous autant que nous soyons soignants de soins palliatifs ou pas, c'est qu'il y a une place pour les deux et que ça n'est pas exclusif l'un de l'autre et qu'on ne mettrait pas à bas les soins palliatifs en promulguant le fait d'avoir le droit de recourir au suicide assisté.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait avoir recourir au suicide assisté dans une unité de soins palliatifs, Sarah Doshi ?
Je pense que c'est toute la question, D'ailleurs, dans aucun endroit, on ne doit ignorer la loi. D'un autre côté, l'engagement fondamental des soins palliatifs n'est pas orienté vers le fait de laisser d'accélérer un décès, mais au contraire de prolonger au maximum le plaisir de vivre et la qualité de vie. Donc, le problème n'est effectivement pas l'un ou l'autre. La question, c'est est-ce que les mêmes personnes peuvent faire les deux, et est-ce que c'est bien que les mêmes personnes fassent les deux. Après, moi, je voudrais juste rebondir sur effectivement Robert qui disait « je prendrai mes dispositions », parce que actuellement on parle de la loi de toute fin de vie, celle qui est en cause et pour laquelle il y aura un vote demain. Mais les dispositions, c'est aussi l'accès à toutes les législations qui entourent la fin de la vie, qui est une période beaucoup plus longue que la toute fin de vie, à commencer par exemple par la sédation profonde et continue jusqu'au décès.
Alors ça, c'est la loi Claeys-Leonetti de 2016. On va reprendre un petit peu les textes pour bien poser le débat. Donc cette loi qui a 10 ans prévoit une sédation profonde et continue jusqu'au décès, associé à l'arrêt des traitements afin d'éviter toute souffrance et obstination déraisonnable, c'est ça ?
Oui.
Ça veut dire qu'il faut avoir donné des directives anticipées ou c'est encore un autre sujet, les directives anticipées ?
C'est encore une autre question. Les directives anticipées et la personne de confiance, ce sont deux dispositifs qui permettent à la personne d'exprimer son avis si elle n'est plus en état de le faire. Donc les deux, directives anticipées et personnes de confiance, ça ne sert que si un jour on ne peut plus s'exprimer. La sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est un droit qu'on peut demander, que l'on soit capable de le faire ou qu'on n'en soit pas capable. Et à ce moment-là, il est possible que les médecins décident, lorsqu'il y a un arrêt de traitement jugé futile et un risque de douleur, donc il est possible que les médecins à ce moment-là décident de manière collégiale de faire une sédation profonde et continue si la personne ne s'y est pas opposée. Il est possible aussi que les proches ou la personne de confiance le demande. Mais typiquement, puisqu'on parle de sédation profonde et continue jusqu'au décès, je voudrais juste partager avec vous un chiffre. 54% des Français seulement connaissent le terme. C'est-à-dire, on a entendu parler.
Je pense qu'en effet, il y a souvent une question qui se pose des personnes qui disent « Mais pourquoi légiférer sur l'aide à mourir alors qu'aujourd'hui, il existe déjà la sédation profonde et continue ?» Et en fait, c'est vraiment pas la même chose. Non. Et je pense que c'est important, en effet, à l'occasion de cette émission,
expliquez-nous en quoi c'est très différent.
Et en fait, ce qui est en jeu aujourd'hui avec les débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale. La sédation profonde et continue, en fait, les soignants vous diront qu'il n'y a pas d'intention, d'acte intentionnel de donner la mort. C'est-à-dire qu'on endort la personne qui est dans un état très faible et ensuite on arrête l'alimentation, on arrête l'hydratation et peu à peu, petit à petit, en fait, ce sont tous les organes en fait qui lâchent les uns après les autres et la personne part endormie. Ce que dit Jean Leonetti, c'est mourir, dormir avant de mourir. Alors que l'aide à mourir, ce dont il est question dans le texte débattu par les députés, eh bien là, c'est l'administration d'une substance létale
c'est pas
qui
du
va
tout pareil.
Entraîner la mort assez rapidement.
Donc on ne parle pas de la même chose. Oui, Sarah Doshi, vous voulez ajouter quelque chose ?
Ce que je voulais ajouter, c'est que sur ce tout petit nombre, enfin cette minorité de Français qui connaissent de fait la loi, il y en a, puisque 40% disent connaître bien le terme. Sur ces 40%-là, 40 pensent que l'objectif est de raccourcir la vie. Donc c'est une conviction erronée, puisque comme vous venez de le dire, Alice, l'objectif n'est pas de raccourcir la vie. Et à peu près 40% pensent que la sédation profonde et continue est réservée aux seules souffrances physiques, alors qu'elle est accessible aux souffrances physiques et psychiques. C'est un exemple, mais c'est un exemple de méconnaissance profonde. Et ce que je voulais simplement dire à Robert et aux autres auditeurs qui sont dans cette notion de « je veux prendre mes dispositions », et je pense que c'est très important de réfléchir en anticipation,
c'est bien de réfléchir et
de se demander
parler,
ce qu'on veut avant, oui. Absolument. Oui. Mais par contre, encore faut-il connaître la loi, celle qui sera votée et celle qui existe déjà.
Mmh. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, comme j'expliquais dans mon message, mon père est décédé en fait il y a un mois d'une longue maladie où il ne faisait plus que 50 kilos, il ne pouvait pas s'alimenter. Et en fait, à plusieurs reprises, on a sollicité la fin des soins et de l'alimentation pour s'être renseigné. Et il a fallu plusieurs semaines, on nous a souvent répondu que ce n'était pas la suite ici. Il a fallu plusieurs semaines, en fait, pour que l'équipe médicale, effectivement, décide que l'état de mon père devait mener à l'accompagnement à la fin de vie, effectivement, comme le disait votre intervenante.
Donc, il a fait l'objet de ce qu'on appelle une sédation profonde et continue ?
Oui, où on nous disait que c'était pour l'apaiser, mais enfin, ça a duré 9 jours. 9 jours, où ouais, on comprend, ça. En fait, que la personne, effectivement, c'est de la déshydratation et la faim. Qui font que les organes lâchent. C'est 9 jours de souffrance quand même, parce que je pense qu'effectivement il y a sédation, mais il y a quand même de la souffrance. Il y a eu beaucoup de réveils, des douleurs, et je pense qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui de ce que ça signifie et pour le malade et pour la famille qui l'accompagne et qui reste à son chevet. Et je pense qu'effectivement on devrait laisser la possibilité aux gens, quand on leur annonce une maladie dont on connaît l'issue, de pouvoir prendre des dispositions pour ne serait-ce qu'éviter aussi ces 9 longs jours d'agonie, parce que je pense que vraiment il s'agissait d'agonie.
Donc pour vous, il faut légiférer.
Il faut légiférer, je pense qu'il faut très en amont préparer les familles à ce qu'elles vont vivre, et préparer le patient aussi au choix pour l'instant qui s'offre à lui, qui sont quand même extrêmement limités. Et je trouve que voilà, et je tiens à féliciter l'équipe soignante qui nous a accompagnés malgré tout. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le système aujourd'hui qui fait que les gens ne sont pas préparés à ce que c'est qu'accompagner un proche.
Absolument.
On ne se rend pas compte.
Absolument. Ben, merci d'avoir témoigné, merci de nous avoir appelé, Emmanuel. François Blot, vous souhaitiez réagir?
Oui, je souhaitais réagir à deux choses. D'abord à ce que vous venez de dire, Emmanuel, et puis à ce qu'a dit Sarah tout à l'heure sur le fait que les Français ignorent ce dont il s'agit, 54% ne savent pas. Les Français ignorent un certain nombre de choses, mais il y a aussi les soignants qui soit ignorent, soit feignent d'ignorer un certain nombre de choses. Or, le problème de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui date de 10 ans, ben c'est oui. Pas tellement que les Français la connaissent pas.
Mais j'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé, quand même.
Oui, et puis bon, mais c'est vrai que personne ne peut se prétendre très expert.
C'était déjà une avancée à ce moment-là.
C'était déjà une avancée, mais c'est une avancée qui a une différence fondamentale avec l'aide à mourir, telle qu'on la nomme actuellement, qui est d'une part l'intentionnalité, effectivement, en tout cas on peut discuter de cette différence, et deuxièmement l'imminence du décès. Donc là, on discute de toute autre chose. Mais quand Sarah Doshi disait tout à l'heure, est-ce que justement ça pourrait se passer ou pas dans une aide à mourir, dans une unité de soins palliatifs, c'est dans leur charte de ne pas hâter la mort, etc. C'est bien là que le bas blesse, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a, et peut-être je jette un pavé un peu dans la mare, mais au sein des équipes, en tout cas des leaders des soins palliatifs, cette volonté de ne pas faire, ne pas être impliqué dans, ne pas accompagner jusqu'au bout, mais à la manière qu'ils ont choisi d'accompagner jusqu'au bout et non pas à la façon dont que le patient souhaite. Eh bien, ça explique que la sédation profonde et continue, qui date de 10 ans, soit si peu appliquée, puisque précisément, elle a été d'emblée diabolisée et associée à l'euthanasie. Et ça a d'ailleurs été signé, co-signé en 2015, par de très nombreux soignants de l'époque, qui maintenant disent que c'est la plus merveilleuse des lois et un trésor national, alors qu'à l'époque, elle était jetée aux gémonies et qu'il fallait surtout pas s'y lancer.
Sarah Doshi, puisque vous êtes présidente du Centre national pour les soins palliatifs sur la fin de vie, je rappelle d'ailleurs que c'est une autorité publique, c'est l'autorité publique qui informe les gens sur la fin de vie, vous ne prenez pas parti. Hein.
Absolument, voilà. Structure c'est neutre, non militante et de service public. Mais deux choses, d'abord une précision, c'est qu'effectivement quand on parle de sédation profonde et contenue jusqu'au décès, on parle de pronostic engagé à court terme, donc on est sur une disposition très différente de ce dont il est discuté aujourd'hui à l'Assemblée, ça c'est juste pour que les auditeurs gardent bien ça en tête. Et par ailleurs, lorsqu'on a cette souffrance majeure en fin de vie, on a tendance à raisonner comme si finalement rien de tout cela n'était anticipable. C'est-à-dire qu'on arrivait d'un seul coup devant une situation de souffrance majeure et qu'à ce moment-là, il fallait faire quelque chose. Le quelque chose pouvant être une sédation profonde et continue ou une sédation proportionnée. La différence entre les deux, c'est que la sédation profonde et continue, le patient est maintenu dans le coma, donc normalement ne se réveille pas. La sédation proportionnée, par contre, est adaptée à son degré de conscience, donc il peut se réveiller. Donc normalement, une sédation profonde et continue, le patient ne se réveille pas. Mais la question, ça pose deux questions. La première, c'est comment les personnes anticipent pour elles-mêmes et comment on prend le temps de discerner ce qu'on souhaite et de pouvoir le demander à son médecin et d'être capable justement d'anticiper éventuellement un retrait de l'équipe. Et puis il faut que les équipes soient formées. Et là, ça pose aussi une grande question.
Mais je crois que ce que dit François Alice. Blot, c'est pas vraiment ça. C'est qu'il y a des équipes qui ne souhaitent pas en fait engager de sédation profonde et continue car elles estiment que c'est déjà une euthanasie passive.
J'ai déjà
recueilli des témoignages de personnes, de proches, donc, disant que la personne malade était en fin de vie, avec un pronostic vital engagé à court terme, mais que les équipes autour d'elle ne souhaitaient pas appliquer ce droit, François.
Si je puis me permettre, il y a une différence fondamentale effectivement entre la sédation profonde et continue, en tout cas telle qu'elle a été légiférée, et l'aide active à mourir, mais il y a un point commun très très clair, c'est que dans les deux cas, on tente d'établir un droit des patients, et dans les deux cas, c'est ce qu'on explique avec Elsa Walter dans notre livre sur la mort confisquée, on confisque ce droit où on cherche à ce que le patient soit un peu délégitimé quand il demande une sédation profonde et continue, raison pour laquelle on l'applique si peu, et on conteste la légitimité de ce qu'il demande pour une éventuelle future aide à mourir. Donc ça, c'est un vrai point commun. On parle de droit, et ce droit, pour l'instant, il est contesté.
Sarah Doshi.
C'est difficile de dire, en fait, qu'on l'applique si peu, dans la mesure où on est capable de compter les sédations profondes et continues depuis quelques mois seulement, puisque lorsque la loi est passée, il n'y a pas eu de dispositif de traçabilité prévu. Donc, il est possible qu'elle soit peu appliquée.
Il y a quand même une mission d'information menée il y a 2 ans, me semble-t-il, par les parlementaires. Disons qu'elle était peu appliquée, cette loi.
Mais qui n'a pas de données, en fait, techniquement.
C'est vrai.
Techniquement, donc les données qu'on a jusqu'ici, c'est effectivement quelques pourcents sur celles qui commencent à apparaître depuis le début de l'année. Mais le rôle du centre est effectivement de donner des données factuelles. C'est pour ça que je réagis. On a actuellement, on a la capacité de savoir combien de sédations profondes et continues jusqu'au décès sont appliquées en France depuis quelques mois. Et on ne sait pas la différence entre celles qui sont demandées et celles qui sont appliquées. Bon, on n'a pas les moyens de le savoir.
Je voudrais qu'on revienne sur le témoignage d'Emmanuel qui parlait de la souffrance, en fait. Pourquoi on parle ce soir d'aide à mourir. C'est parce que cette souffrance que l'on voit chez nos proches ou que l'on s'attend à subir soi-même, ben on ne peut pas la supporter en fait. C'est insupportable et pour la famille et pour celui qui va partir. Donc est-ce qu'on sait aujourd'hui la prendre suffisamment en compte, cette souffrance, Sarah Doshi? C'est ça qu'elle nous disait au fond. Elle disait, moi j'ai vu mon père agoniser pendant 9 jours, c'est pas possible.
Alors, je pense que la réponse, elle est sur 3 champs. Elle est en termes de ressources en soins. Je parle pas simplement de soins palliatifs au sens d'équipes spécialisées de soins palliatifs. Je parle simplement de personnes formées au traitement de la douleur, de dispositifs, par exemple, de prise en charge innovant de la douleur réellement disponible. Donc, il y a une question de ressources, il y a une question de formation des soignants pour justement connaître les droits, par exemple, et savoir exactement l'application d'un droit. C'est aussi quelque chose de fondamental. Et puis, c'est une question d'anticipation. Et l'anticipation, je pense que c'est important parce que dans les situations situations de souffrance, il y a des situations qui sont nées de vulnérabilités majeures qu'on aurait pu éventuellement ne pas provoquer. Et on ne parle pas assez de la possibilité pour des patients de refuser certains traitements qui vont par exemple entraîner des situations de vulnérabilité, des traitements invasifs, des choses comme ça. Et il y a un certain nombre de souffrances qu'on pourrait éviter si on limitait des traitements quelquefois futiles, si on anticipait assez pour que les patients aient accès aux soins et accès aux structures. Typiquement, un patient qui va vouloir, par exemple, rentrer et vouloir décéder à la maison. On a à peu près 75% des personnes qui veulent décéder à la maison. Et dans ces 75%, il y en a un tiers qui disent uniquement si j'ai tous les traitements possibles à la maison, parce qu'ils ont peur d'avoir mal. Mmh. Si on anticipe, on est
c'est
capable de mobiliser
ça,
à la maison l'hospitalisation à domicile et d'avoir des vraies ressources. Si on ne le fait pas, effectivement, on risque de se retrouver devant des situations de souffrance. Donc, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve en vous disant qu'on est très fort sur toutes les situations de souffrance. Ce ne serait pas vrai. En revanche, ce que je dis, c'est que par l'augmentation des ressources, par une formation adéquate et par une anticipation adéquate, on rend déjà les personnes plus à même d'avoir une souffrance contrôlée.
Alice Cachaner.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui décident de faire par leurs propres moyens. C'est-à-dire, moi j'ai pu faire une enquête là-dessus, sur les euthanasies, les suicides assistés clandestins des personnes, parce qu'elles ne veulent pas souffrir en arriver là, qu'elles trouvent que ce qui est offert en France est insuffisant, et donc se procurent des substances létales à l'étranger pour mourir quand elles le veulent, quand elles le souhaitent. Il y a aussi des taux de suicide chez les personnes âgées qui sont très élevées. Mmh. Et donc, cette peur de mal mourir, de souffrir, en effet, elle existe avec des personnes qui trouvent aujourd'hui, eh bien, si je puis dire, leur système D.
Mmh. Elle nous disait aussi, Emmanuel, il faut préparer la famille à ce qu'elle va vivre. Là, aujourd'hui, les familles ne sont pas assez entourées. On ne s'en occupe pas suffisamment. On n'a pas les moyens de les prendre en charge, Sarah Doshi.
Alors, il faut préparer la famille parce qu'elle a besoin de soutien, parce qu'elle a besoin d'informations et qu'elle a besoin d'échanger autour de la fin de vie dans les prises en charge en soins palliatifs qui, je le répète, ne concernent pas que les équipes spécialisées. Il y a cette prise en charge des proches qui est quelque chose d'indispensable. Après, je pense que dans la préparation de la famille, il y a aussi un discours de vérité à avoir. Un discours de vérité sur éventuellement les possibilités des traitements. Un discours de vérité sur les risques de souffrir, sur les limitations éventuellement des perspectives. Mais lorsque vous voyez quelquefois dans des pathologies graves comme la cancérologie, des familles et des patients qui chacun s'entretiennent dans un discours où on espère la survie, on ne parle que de la survie. Et puis finalement, on arrive, on sait que le décès est probable, mais on sait que peut-être il y a encore une petite chance d'attendre une survie dans certains cancers très avancés. Et de concert, on ne parle pas de ce qui est probable, on ne prévoit pas ce qui est probable, et on continue à essayer de se protéger l'un l'autre en se racontant qu'il y aura une survie. Préparer les proches, c'est ça aussi. C'est être capable d'avoir un discours de vérité sur la limite, quelquefois, des perspectives de la médecine.
Préparer les proches, c'est ce qui se fait aussi dans votre service, François Blot. Vous êtes médecin réanimateur, non ?
Oui, bien sûr. Il s'agit de protéger plusieurs personnes. Le patient en premier, la personne malade. Les proches, les aider à préparer le deuil. Et ça, ça ne peut pas non plus se décider à la place de la personne ou à la place des proches. En tout cas, la meilleure manière d'y parvenir doit se faire de façon co-construite, si je puis dire. Et puis également, travailler avec les soignants, parce que également, ces situations de fin de vie se répercutent tout au long de notre exercice professionnel. Mais je voudrais, si vous me permettez, rebondir juste sur une petite chose. Tout à l'heure, Sarah disait les personnes. Enfin, c'est une question de formation des professionnels, notamment. Moi, je dirais que c'est plus une question de philosophie de soins. Le fait d'accéder ou pas à la sédation profonde et continue plutôt qu'une sédation proportionnée qui traîne, ou le fait d'être d'accord avec l'aide active à mourir. Il y a un témoignage qui est bouleversant d'Emmanuel Carrère dans son dernier livre sur la fin de vie de sa maman dans un grand centre de soins palliatifs parisien. Et là, c'est pas une question de formation des professionnels. Ils savent tous exactement ce qu'il faut faire. C'est pas une question de connaissance des citoyens français. Tout le monde sait ce qui existe, à peu près, et ça n'est pas fait parce que ça brûle les doigts. Donc, il y a quand même une... Il faut un peu enlever les nez rouges, je pense, de ce qu'on imagine être limitant dans ce que ne savent pas les gens ou le manque de formation. Oui, tout ça existe, mais il y a surtout une question de philosophie de soins. Est-ce que je respecte le droit et la parole du patient ?
François Blot, vous me dites si je me trompe, mais il me semble que c'est lié aussi à l'histoire, à la création des soins palliatifs en France.
Ça existe opposition. Depuis les années 90 en gros.
Exactement, hein. La naissance des soins palliatifs, donc les soins palliatifs qui sont nés en opposition aux pratiques euthanasiques avec des médecins qui administraient des cocktails lytiques. Ces soins palliatifs, ils sont nés sur les cendres de ces pratiques-là.
Ah, absolument, c'est pour ça que d'entendre dire les soins, l'aide à mourir, pardon, vous vouliez...
Non, je vous en prie,
dire l'euthanasie, on a déjà essayé, non, l'euthanasie clandestine s'est faite effectivement dans des périodes terrifiantes, et heureusement, alors fort heureusement, à partir d'inspiration notamment anglo-saxonne et puis ensuite en France dans les années 80, sont nés les soins palliatifs, et alors là, heureusement qu'il y a eu ce grand mouvement qui a permis de s'opposer ou de compléter une médecine ultra curative, qui parfois avait pas vraiment les moyens de ses ambitions, qui traitait très mal la douleur, qui guérissait pas beaucoup les maladies, en tout cas, bon, même ça va mieux maintenant, mais à l'époque, le cancer, le sida, on savait pas bien faire.
Ouais.
Heureusement qu'il y a eu ce mouvement-là. Pour autant, après, faut sûrement sortir peut-être de la citadelle que l'on s'est construite pour lutter contre le soin curatif.
Et c'est ce qu'ont réussi à faire les Belges, il me semble.
On va y venir. Bonsoir, Christine.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, Christine.
Bien, vous avez commencé à répondre à ma question. Moi, ce qui m'a beaucoup surprise quand la loi a commencé à être discutée, c'est que les politiciens ont arrêté à cause des événements politiques et ils ont repris la discussion en la divisant en deux. Et en séparant donc les soins palliatifs de l'euthanasie. Et moi, là, j'avoue que j'étais très, très surprise parce que les soins palliatifs, pour moi, ça fait partie de la médecine normale dans un pays développé au 21e siècle. Et là, je viens de comprendre qu'effectivement, avec toute la recherche sur la douleur, c'était peut-être pas aussi avancé que je ne le pensais. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment comprendre, là, qu'est-ce qu'on décide dans le soin palliatif ?
Oui, mais c'est une bonne question. Alice Cachaner, qu'y a-t-il dans le texte sur les lois palliatives en ce moment qui est devant l'Assemblée nationale ? Puisqu'il y a deux textes, on rappelle, hein, il y a deux propositions de loi. Il y en a une sur l'aide à mourir et l'autre sur les soins palliatifs.
Tout simplement déjà de déployer des moyens. Alors après ça, c'est permis par les lois de financement de la sécurité sociale. Ensuite, c'est de diffuser la culture palliative, ce qu'on appelle la culture palliative, c'est-à-dire que soigner les douleurs, en fait, que ce ne soit pas fait uniquement dans les services de soins palliatifs, mais de diffuser un peu ça un petit peu partout, en fait, même durant les études. En revanche, le droit opposable pour accéder aux soins palliatifs, ça a été abandonné. Bon, après, ça relevait un petit peu du symbole.
Mais finalement, le problème, Sarah Doshi, c'est un problème de moyens. Hein. Pour les soins palliatifs, surtout.
C'est un problème de moyens, c'est un problème d'identification.
Il y a encore plein de départements dans lesquels il n'y a pas d'unité de soins palliatifs.
Alors, il y a eu un gros effort lié à la stratégie décennale pour les soins palliatifs et l'accompagnement, qui est en cours de déploiement par le ministère de la Santé.
On a gagné 8% de lits en soins palliatifs, a dit la ministre de la Santé ce matin.
Absolument. On a, à terme, il n'y aura plus, je crois, que 3 départements qui n'auront pas d'unité de soins palliatifs d'ici fin 2028. Donc, il y a un retard en termes d'inégalité qui est en train d'être comblé. Après, je pense qu'il y a une question de ressources en professionnels spécialisés, mais il faut avoir en tête que les soins palliatifs, c'est effectivement de la médecine et c'est une notion de gradation des soins. C'est-à-dire qu'il y a des situations relativement simples où n'importe quel professionnel de santé peut avoir une démarche palliative de prise en compte de la qualité de vie de la personne, d'attention portée à ses attentes, à ses valeurs, à ses repères, à ses proches. Et puis, il y a des situations de plus en plus complexes où on va avoir besoin progressivement des professionnels de soins palliatifs, soit simplement sur des avis, soit éventuellement sur une hospitalisation comme unité de soins palliatifs. Donc, pour répondre à votre question, on a besoin de quoi ? On a besoin, certes, de ressources spécialisées. On a besoin d'une médecine qui arrive à sortir du tout curatif. On a besoin d'une valorisation de la phase palliative, on a besoin d'une valorisation du ne pas faire. Or aujourd'hui, dans des établissements, ceux qui pourraient démarrer une prise en charge palliative, c'est-à-dire un temps de réflexion, un temps d'échange pluridisciplinaire, et éventuellement le fait de ne pas faire une énième ligne de traitement qui ne sera pas efficace, ça n'a aucune valorisation. alors que au contraire, traiter, ça va ramener de l'argent à l'hôpital, et puis ça renvoie ce mythe de la toute-puissance curative. Donc on a besoin, et je rejoins ce que disait François Blot par rapport à ça, on a besoin d'un changement philosophique et d'un changement de paradigme, mais qui n'est pas opposé soins palliatifs et pas soins palliatifs. C'est d'arriver à faire rentrer dans l'idée des prises en charge qu'on a besoin d'une prise en charge globale de la personne, voilà. Pas simplement de rêver à des espoirs de survie.
Alors revenons-en sur l'aide à mourir et sur ce que veut le patient. On a ce message de Lise qui nous dit « Il faut tenir compte du fait qu'on peut souhaiter par anticipation être aidé à partir, mais qu'une fois dans la situation de fin de vie, on soit plus ambivalent. » François Blot.
Ah oui, mais ça, c'est vrai. C'est
ça, vraiment... je crois que c'est important d'en parler de ça.
C'est vrai dans tous les sens, et Sarah Doshi ne démentira pas. Évidemment, l'ambivalence, elle est en chacun de nous, la vulnérabilité est en chacun de nous, mais une forme d'autonomie est aussi en chacun de nous. Et c'est bien pour ça que la loi prévoit, et tout simplement l'éthique médicale, la pratique du soin, prévoit la réitération, le fait d'avoir énormément de précautions dans l'écoute du patient. Il ne s'agit pas de prendre au pied de la lettre une demande qui tomberait comme ça, de façon incongrue, sans avoir jamais été dite auparavant. Et donc, évidemment, prendre en compte ces possibles revirements d'une personne dans son parcours est absolument nécessaire. Pour autant, les demandes beaucoup de demandes qui sont faites sont des demandes qui sont mûrement réfléchies, sur lesquelles les personnes ne reviennent pas en arrière, dont elles ont pu parler en famille, et ça, cette préparation collective du deuil et le fait de pouvoir diminuer la violence qui va être la fin de vie d'un proche par le fait de l'avoir accompagné dans ce chemin-là, c'est très important. Donc l'ambivalence, oui, mais faut pas tout lui mettre sur le dos. Il y a quand même à un moment une forme de constance quand même qui souvent se dégage.
On précise qu'il y a dans l'article 4 hein, de la loi sur l'aide à mourir, Alice, parce que je crois que c'est important, il y a 5 conditions pour être éligible.
Oui, 5 critères cumulatifs, c'est important de le dire.
Voilà, être majeur, français ou résident, être atteint d'une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et que le patient soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, c'est ça ?
Oui, vous avez tout dit. Bravo. Bon,
François Blot, ça s'adresse à qui, par exemple ?
Eh bien, ça s'adresse à des personnes qui ont une maladie qui est évolutive, pour laquelle il n'y a pas d'issue.
Un cancer, évidemment, mais par exemple, est-ce que quand on a eu un AVC, on peut être éligible ou pas ?
Ah, pour qui ça ne s'adresse pas ?
Bah oui.
Eh bien, effectivement, c'est un point qui n'est pas résolu actuellement par la loi, les personnes qui perdraient leur capacité d'exprimer avec discernement une volonté qu'elles auraient préalablement dite, mais qui à ce moment-là, du fait d'un AVC, d'un accident de la route, d'une maladie neurodégénérative, ne pourraient pas confirmer cette demande, ne seront pas éligibles.
Oui.
Là, je voudrais juste réagir parce que c'est à ça que servent les directives anticipées et la personne de confiance. C'est à pouvoir justement prévoir le moment où on ne pourrait plus exprimer sa volonté. Donc,
ces directives anticipées ne seront pas prises en compte dans la loi. Elles sont exclues à l'ordre du jour.
Non, c'est pas ce que je veux dire. Je parlais pas de l'euthanasie, je parlais de la possibilité de dire des choses sur sa prise en charge. Les directives anticipées, elles sont acceptées pour avoir accès à l'aide à mourir aujourd'hui aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne et au Québec. Donc certains pays effectivement ont intégré cette démarche-là. Mais là non, ma remarque était par rapport à la possibilité de prévoir éventuellement un arrêt de réanimation. C'est un point complexe qu'il faut qu'on réussisse à faire passer aux auditeurs. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de situations où finalement refuser des soins à l'avance ou demander une sédation profonde et continue à l'avance, va éviter de se retrouver dans une situation de vulnérabilité majeure. Parce qu'effectivement, si on n'a pas de directive ou de directive anticipée de personne de confiance, on va réanimer, par exemple, et une fois qu'on a réanimé, qu'est-ce qu'on va faire de ce patient ?
Absolument.
Donc il y a un vrai enjeu à pouvoir s'exprimer en amont et dire ce qu'on souhaite.
Bonsoir Chris.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai juste une remarque. Après une hospitalisation dont je suis encore traumatisé, c'est que le corps médical a tendance à se réfugier derrière le principe de précaution et maintenant la clause de conscience, comme ça, on se déresponsabilise au maximum, aux grandes dames des patients, excusez-moi.
François Blot, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Chris ?
Vous êtes tout excusé, c'est le sujet un peu provocateur de notre livre sur la parole confisquée et le fait que effectivement on se réfugie parfois derrière un tout pouvoir médical ou un principe de précaution ou du jargon médical et donc où la parole du patient finalement n'est pas remise au premier plan et pour toutes sortes de raisons on exerce ce super pouvoir. Et donc l'idée est effectivement de restaurer une horizontalité et une véritable écoute entre le pouvoir médical et le pouvoir du patient sur lui-même.
Sarah Doshi.
Oui, je pense qu'à côté de ces notions de pouvoir médical et de pouvoir des patients, je pense qu'il faut intégrer la notion de corps social, d'entourage du patient, d'entourage social et relationnel. Et il y a un mot qu'on n'a pas évoqué depuis le début de l'émission qui est le terme de vulnérabilité. Or, on sait que le moment de la fin de vie est un moment de très grande vulnérabilité physique, mais également émotionnelle, relationnelle, sociale. L'autonomie est engagée. Et c'est un point important de réintégrer toutes ces responsabilités-là et de ne pas réduire la question à un patient supposé être totalement autonome et distinct de tout type de pression et un corps médical. Ce que je dis n'a pas d'orientation particulière. La vulnérabilité clinique, elle n'est pas liée à la loi. C'est-à-dire que la loi, de toute façon, s'impose. Mais avoir une prise de conscience que quand on parle de cette autonomie et de discernement, enfin de patient, de volonté libre et éclairée, ce n'est pas si simple. Et je pense qu'il faut éviter de réduire ça à un patient seul, un médecin seul, et deux pouvoirs l'un contre l'autre.
François Blot.
On est tous bien d'accord là-dessus. Simplement, on est tous d'accord sur le fait que les personnes sont à la fois vulnérables et plus encore en situation de maladie et de fin de vie, mais également capables d'autonomie. Simplement, la différence entre ceux qui sont partisans d'une légalisation de l'aide active à mourir et ceux qui sont contre, c'est l'endroit où ils placent le curseur. Les uns estiment que la personne est d'abord vulnérable et il faut d'abord la protéger contre elle-même, et d'autres vont penser qu'elle est quand même surtout autonome et qu'il faut respecter ce droit et la parole de la personne. Mais on est tous d'accord pour dire que c'est les deux. Mais simplement, qu'est-ce qui prédomine ?
Merci à vous tous pour ce débat apaisé. Je crois que c'était nécessaire, hein, et très utile. Merci Sarah Doshi.
Merci
à vous François Blot. Merci infiniment Alice Cachaner d'être venue en parler avec les auditeurs.